Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'Entreprendre. On s'intéresse aujourd'hui au tourisme en Occitanie, un secteur économique porteur qui se réinvente sans cesse. Michel Julien l'a bien compris, il vient de fonder le comité Riquet, un réseau professionnel dont l'objectif est de défendre et faire connaître l'excellence en Occitanie. Nous sommes sûrs de la qualité, on pourrait dire aussi du haut de gamme, l'excellence du savoir-faire et des produits en Occitanie. Bonjour Michel Julien.
Bonjour.
Vous êtes à la tête du comité Riquet, mais aussi chef d'entreprise, aux commandes du château de Villerambert, à Cosne-Minervois, c'est dans l'Aude. Alors qu'est-ce que le comité Riquet? C'est une vitrine de ce qu'on fait de mieux en Occitanie?
On va dire que c'est une vitrine active, mm-hmm. parce que dans le mot vitrine, il y a un côté passif,
statique.
Et statique, alors que notre ambition est effectivement, au-delà de faire, je dirais, le constat et la liste des entreprises d'excellence dans le tourisme, mais également l'art de vivre, au-delà de ce constat, il faut faire connaître les entreprises et de manière générale l'excellence en Occitanie où je dirais qu'on a eu un peu tendance à oublier la province pouvait générer des entreprises de grande qualité.
Alors le comité Riquet, comment vous est venue cette idée? Vous étiez il y a quelques années viticulteur.
Oui, on préfère le mot vigneron. N'est-ce pas? Et avant même d'être vigneron, j'avais créé avec mon épouse une entreprise qui était dans la décoration, le mobilier contemporain, sur Carcassonne, Narbonne. Et à cette occasion, on avait des fournisseurs à Paris qui faisaient partie du comité Colbert.
D'accord.
Qui était le comité d'excellence, je dirais, le plus connu à l'époque. Et qui regroupait des entreprises comme Hermès, Baccarat, les grandes
signatures. On est sur du luxe, voilà. Ouais.
Du luxe français. Et j'avais trouvé, déjà il y a 30-40 ans, cette association entre grandes maisons, j'avais trouvé ça intéressante. Puis, j'ai été amené à reprendre en 78 la propriété familiale, à la suite de la fatigue de mon père. Et là, je me suis retrouvé à être, un terme que j'aime bien, missi dominici du Languedoc. C'était à l'époque où le Languedoc émergeait de la crise avec, les heures noires qu'on a connues avec les épisodes de Montredon et tout cela, où on a un CRS est mort, un vigneron est mort également. Et donc, à la suite de ça, il a fallu reconstruire le Languedoc et surtout son image, de la qualité, à partir de la vinification.
Et faire venir aussi les touristes.
Et faire venir, je dirais, avant les touristes, faire venir effectivement les clients.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai qu'il y a eu à ce moment-là, je dirais, un engouement. La viticulture s'est repositionnée. On va dire également qu'il y a eu un repositionnement de toute la partie gastronomique. On va dire que l'Occitanie, au sens large, était un désert gastronomique. Et puis, il y a eu des chefs qui sont venus, qui se sont imposés.
Ouais.
Et il y a eu également une prise de conscience également de la qualité de nos paysages. Parce qu'on vivait dans une espèce de complexe d'infériorité versus la Côte d'Azur, la Dordogne, la Côte Basque, l'Alsace, n'est-ce pas? Et grâce aux touristes qui nous disent « Vous habitez un joli pays » et à qui on répondait « Mais je crois que vous ne connaissez pas un joli pays, nous un joli pays ». Et puis, on est allé, moi personnellement, j'ai pas mal voyagé pour mon métier. Je suis allé en Toscane, je suis allé à l'Aragon. J'ai dit, mais attends, quand on revient...
Ce qui se passe ici, c'est très bien.
C'est très bien. On ne sait peut-être pas le mettre en valeur, mais on a un potentiel extraordinaire. Et de cette volonté de mettre le Languedoc, puisqu'à l'époque on était Languedoc, de mettre Languedoc en avant avec ce qu'il a de meilleur chez les vignerons, et en arrière-plan, cette idée du comité Colbert, et troisième volet de la, on va dire, de la démarche, j'étais amené, alors que je vois le canal du Midi tous les jours à Carcassonne, j'ai dit, mais dans le fond, je ne sais même pas comment il fonctionne, je ne sais même pas qui est Riquet, et je me suis mis à étudier la vie et l'œuvre de Riquet. Et là, j'ai réalisé que cet homme, au XVIIe siècle, était un entrepreneur extraordinaire, qui était en avance sur son temps par rapport, je dirais, aux conditions sociales du travail, un peu forcé parce qu'il était en concurrence avec, je dirais, les fermes, les grandes fermes de la région qui payaient des ouvriers. Donc lui a été obligé de faire de la surenchère sociale au niveau des salaires, mais au niveau des conditions de travail. C'est le premier qui a payé les femmes enceintes quand elles ne pouvaient plus travailler, les hommes malades quand ils ne pouvaient plus travailler. Donc
c'était des valeurs, en fait. Et vous êtes retrouvé à travers son histoire.
On s'est retrouvé dans son histoire qui est très contemporaine.
Et les valeurs de l'Occitanie aussi, c'est ça.
Et surtout, son œuvre majeure... Le canal, on va dire du Midi, mais le canal de Toulouse à 7, CE2TE, représente aujourd'hui un magnifique trait d'union entre l'ex-Midi-Pyrénées et l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc tout ceci a fait que j'ai dit, mais dans le fond, il y a un comité Colbert, mais pourquoi nous, dans le Sud, avec les valeurs qu'on recherche et les valeurs qu'on a en face, pourquoi le comité Riquet ne serait pas le comité de l'excellence du Sud?
Alors, le comité de l'excellence, ça veut dire quoi? Alors, est-ce que c'est entre guillemets un peu réducteur? C'est-à-dire que qui accueillez-vous dans votre comité? On est sur des entreprises haut de gamme. Est-ce qu'on peut parler de luxe ou pas?
Alors,
citer, on peut en citer quelques-unes si vous voulez.
Oui, non, mais c'est avec plaisir. Si on fait référence au luxe, mais oui, on peut penser par exemple à des sociétés comme Cosse-Gantier, Amio qui fabrique des gants, qui est une filiale de Chanel. Ouais. On peut penser par exemple
Tarbourièche
à Metz avec ce procédé. Alors je trouve le cas de Tarbourièche intéressant, parce qu'on est sur un produit ancestral, l'huître. Mais on est sur un procédé totalement novateur qu'a mis au point Florent Tarbourièche, qui est de combiner l'énergie solaire pour faire monter, faire descendre ces huîtres, pour imiter en quelque sorte le process de la marée, puisqu'il a trouvé que les huîtres de l'Atlantique avaient un peu plus de saveur, un peu plus de finesse. Il a essayé de comprendre pourquoi. Il a découvert qu'il y avait ce côté...
la marée.
Découverture des huîtres du fait de la marée. Et lui, au lieu de faire bouger la mer, il a fait bouger les huîtres.
Et oui, on ne peut pas faire bouger la Méditerranée.
Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, dans le comité Riquet, de parler de luxe, bien sûr, mais plutôt d'excellent, de savoir-faire.
Voilà ce que j'allais vous dire. De savoir-faire et des artisans aussi, puisqu'il y a les forges de l'Aïeul.
Les forges de l'Aïeul, bien sûr.
Bien sûr. On peut parler aussi de graines de pastel.
Graines de pastel, chez vous, qui jouent à domicile. On peut parler d'Étoiles du Soleil, qui est une aventure extraordinaire.
À Perpignan,
même à Saint-Laurent-de-Cerdan, dans les Alberts. Et on peut parler de Pénotier, on peut parler l'hôtel de la Cité.
À Carcassonne,
Le patrimoine, Fontfroide, la ville de Fontfroide. Avec des systèmes également novateurs, comme par exemple l'accueil sur une péniche avec la péniche Savannah, qui est une péniche très, 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 très haut de gamme. Je ne sais pas vous dire le prix de la nuit sur cette péniche, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment
Ça veut dire qu'il y a une demande aussi.
Et ça veut dire qu'il y a une
voilà,
demande.
Voilà, tout à fait.
Qu'il y a une demande, qu'il y a un calendrier. Quand on parle avec Adrien Bramouillet de la péniche Savannah, il a un calendrier à faire peur.
Qui est rempli, ouais. Alors, ça veut dire quoi exactement? Vous vous retrouvez entre vous, bien évidemment.
Alors,
de quoi
pas...
vous parlez? Qu'est-ce que
alors,
vous faites?
D'abord,
quelles sont vos actions?
Alors, il faut vous dire qu'on est... pratiquement dans la phase de lancement.
Ouais.
Une idée, vous savez, elle met du temps à se mettre en place. Et dans un premier temps, on voudrait être un peu plus nombreux. Mmh. Je ne dis pas qu'on fait du prosélytisme.
Donc vous lancez un appel.
Donc je lance un petit appel. On ne va pas être 400. Actuellement, on se retrouve une douzaine. On ambitionne d'être une trentaine, une quarantaine d'ici 3-4 ans. Mmh. N'est-ce pas ? Mmh. Mais le but, au-delà de le mot entre nous ne me plaît pas. On n'est pas là pour faire du nombrilisme et de dire « je suis bien, tu es bien, nous sommes bien ». C'est de dire « on représente le fer de lance dans le no-tourisme, dans l'art de vivre de l'Occitanie ».
Tout à fait, ouais.
Il faut savoir que pendant très longtemps, l'Occitanie a joué la carte d'un tourisme social qui avait toute sa raison d'être, n'est-ce pas ? Mais... et d'ailleurs, la région, les pouvoirs publics sont en train de réaliser que ce seul tourisme social ne suffit pas et qu'un tourisme haut de gamme est inducteur d'emploi et d'emploi de qualité.
Et émerge effectivement depuis quelques années. Je pourrais vous donner un chiffre. Hein, le panier moyen du visiteur en Occitanie, c'est 42 euros par jour.
Voilà.
Ça reste quand même très faible.
Ça reste très faible par rapport à d'autres régions de France, voire même d'Europe, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail de prise de conscience qui a été fait par la région, de faire cohabiter le tourisme social, que je ne dénigre absolument pas, mais le faire cohabiter avec un tourisme haut de gamme, qui soit dans les lieux d'accueil, soit simplement dans les résidences, ou... ipso facto, on va être obligé d'avoir recours à des artisans de qualité, à des managers de qualité. On va réapparaître des plâtriers de qualité versus le placoplâtre. On va apparaître des ferronniers de qualité. On va arriver des peintres avec des techniques sur la chaux, par exemple, qu'on ne connaissait pas, enfin, qu'on avait oublié il y a 15-20 ans. Pour gérer des endroits haut de gamme, il faut des managers de qualité, avec une formation, avec de l'expérience, avec donc des salaires. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a tout un cercle vertueux à reconstituer. Et donc, le comité Riquet s'inscrit, je ne dis pas à lui tout seul, ne faisons pas un péché d'orgueil, mais simplement veut être...
Dans cette démarche qualitative.
Peut-être un aiguillon, éperon, et dire... Vous pouvez y arriver puisque d'autres y sont arrivés.
D'autant que le tourisme également est en train d'évoluer puisque le visiteur recherche aujourd'hui du contenu, des expériences.
Bien sûr.
On va en parler dans un instant, vous restez avec nous.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission, nous sommes en compagnie de Michel Julien du comité Riquet et à nos côtés Denis Avril, un de nos consultants éthiques sur Radio Présence vient de nous rejoindre. Bonjour Denis.
Bonjour.
Alors Denis, on parle de tourisme, on parle d'excellence dans le tourisme et surtout on parle d'artisans, d'artisanat, de savoir-faire, de tout ce qui fait la richesse et la force de l'Occitanie. Première question à notre invité Denis.
Oui, sur le thème du tourisme, il y a un tourisme très concentré actuellement sur quelque chose, quelques lieux qui sont particulièrement connus. On peut parler de Carcassonne, effectivement. Mais il y a aussi un tas de trésors, quand même, dans votre région. Vous êtes installé à Côte-Minervois, une très très belle abbaye avec une très belle histoire. Est-ce que vous vous sentez aussi un rôle à faire connaître ces lieux touristiques, donc en dehors de vos propres exploitations, et donc de participer à ce développement ?
Écoutez, oui, vous avez raison d'évoquer ce problème. Il est certain que Carcassonne, par exemple, où j'habite, connaît pendant les périodes d'été une suraffluence. On parle d'overtourisme, plutôt de suraffluence, si on veut rester dans la langue de Molière ou de Riquet. Alors, je serais tenté de dire... Tant mieux, voyons le verre à moitié plein. Rien n'est plus triste que des pays qui misent sur le tourisme, qui sont désertés. Je pense au pays du Maghreb, par exemple, quand il y a des attentats, des choses comme ça. Mais effectivement, le côté négatif, c'est qu'on ne se concentre que sur le lieu, alors que, comme vous l'avez dit, il existe des trésors à côté. Une statistique sur Carcassonne, 1,2 nuitées par, on va dire, par couple ou par visiteur. Alors, effectivement, je pense qu'il y aurait tout un travail pour, je dirais, délocaliser les intérêts, les faire rayonner. Et c'est là où, effectivement, nous, par le fait de présenter des entreprises d'excellence qui sont bien souvent dans le tissu rural, permet d'attirer des touristes vers des choses vraies. C'est vrai qu'actuellement, il y a une tendance à vouloir visiter intelligent.
Oui, c'est ça, avec du contenu.
Avec du contenu. Oui. Bon, il est certain que, je veux dire, une des ambitions du comité Riquet, avec la région, avec des initiatives propres vis-à-vis, par exemple, des chambres franco-américaines, franco-chinoises, franco-japonaises, c'est d'attirer des médias au travers du prisme du comité Riquet et de dire à ces journalistes japonais-américains, vous nous confiez 3 jours, et puis pendant 3 jours, on va vous mettre la tête pleine d'images. C'est-à-dire qu'on va vous amener à Anduze, on va vous amener à La Guiole, on va vous amener à Saint-Laurent-de-Cerdan, on va vous amener à Colmenarois, on va vous amener à Fontfroide, pas loin de la Grasse. Et là, l'ambition, c'est que ces médias qu'on va inviter soient des relais d'opinion vis-à-vis d'un public, certes un peu choisi, mais un grand public à l'extérieur, à l'international, et qu'ils reviennent en Occitanie pour voir autre chose que...
Le château de Carcassonne.
Que la cité de Carcassonne.
Il y a un travail qui est fait actuellement au niveau des comités départementaux du tourisme.
Oui.
Il y a du travail effectivement qui va dans ce sens-là. Mais forcément,
la route
ça,
est longue,
là, ça va prendre du temps.
La route est longue. Et oui.
Denis, une autre question.
Oui, donc vous alliez à la fois l'hébergement ou l'animation par les propriétés et les artisans.
Oui. Hein.
Artisans qui sont, j'allais dire, des métiers de l'art de vivre et de tradition. Et on se rend compte qu'actuellement, il y a un certain nombre de jeunes entreprises qui se créent dans ce domaine. Ici même, nous avons reçu un boutier, par exemple,
c'est
etc.
Ça, les métiers d'art.
Est-ce que vous sentez un rôle aussi à faire émerger et à aider à vivre et à se développer ces jeunes pousses, j'allais dire.
Susciter des vocations, en fait. Ouais.
Tout à fait. Je vais vous répondre un peu longuement là-dessus. Dans le comité Riquet, il y a des gens assez divers, n'est-ce pas ? On n'est pas des clones copier-coller. Donc il y a des sensibilités, il y a des attitudes très différentes. Et je pense par exemple à un garçon qui dirige les forges de La Guiole et qui est venu au comité Riquet parce qu'il a été attiré par le côté, entre guillemets, lobbyiste que pourrait avoir le comité Riquet vis-à-vis de certains pouvoirs publics. Le problème qu'ont les forges de La Guiole à La Guiole, Nord Aveyron, c'est qu'actuellement, il a 35 emplois non satisfaits.
Il recherche 35 personnes.
Il recherche 35 personnes.
Ah oui.
Il a le marché pour les occuper, mais il n'a pas les gens formés pour cela. Et je dirais que La Guiole, je vais employer un mot peut-être tabou à Radio Présence, mais La Guiole n'est pas assez sexy pour attirer des jeunes dans le fin fond de la pampa aveyronnaise.
Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont aussi formés à ces métiers ? Ça, c'est une vraie question.
Il y a
l'environnement, mais il y a aussi la formation de base.
Alors, la formation de base, oui, il est certain que la meilleure formation, c'est celle qui se trouve in situ dans l'entreprise. Et il faut pouvoir aussi faire reconnaître à certains entrepreneurs ce statut de formateur.
Oui, oui, oui.
Un statut, je dirais, je ne vais pas dire hybride, mais un statut mixte où je suis à la fois l'employeur, mais je suis aussi le formateur, avec, je dirais, des heures quasiment ou un temps diplômant, n'est-ce pas ? Où on considère que, éventuellement, 2-3 ans passés dans l'entreprise équivaut à un CAP, un BTS ou un bac pro, enfin ce que vous voulez. Quoi.
Oui.
Donc, de ce côté-là, c'est intéressant que le comité Riquet puisse avoir, je dirais, on va dire, de fait de sa position, des gens qui sont dedans, d'avoir un contact un peu plus direct avec les décideurs ou les gens qui pourraient
prendre
des décisions.
Voilà, vous allez pouvoir porter leur voix, en fait.
Absolument.
Denis, une autre question ?
Oui, bon, là, vous parlez finalement de l'apprentissage et du problème de l'apprentissage en France, là. Mais j'ai une autre question qui est un peu sur quelle façon vous voyez votre croissance ? Donc pour attirer des nouveaux membres, vous avez dit que vous ne vouliez pas en avoir trop, mais tout de même, hein, si vous arrivez à 30, 40, c'est déjà plus la même chose de gérer. Dans des comités comme ça, il peut y avoir des gens qui n'ont pas forcément tout à fait les mêmes ambitions, j'allais dire, par rapport au comité. Il peut y avoir des gens qui sont même concurrents. Vous avez souligné, et c'est vrai, il y a aussi le gros problème des distances, puisque autant le comité Colbert à Paris, par exemple, c'est des gens qui sont tous dans le même quartier, j'allais dire.
Oui.
Autant là, entre l'Aïeul et puis Perpignan, voilà, c'est des grandes choses. Comment vous voyez cette croissance et comment vous envisagez de la gérer dans les relations et dans le plan de marche, quoi.
Alors, je ne vais pas vous faire de baratin. Je crois que vous touchez là le problème le plus difficile. Je n'ai pas dit insurmontable. J'ai dit difficile, mais Dieu merci, même si on s'appelle le comité Riquet, on n'est plus à l'époque des voyages à cheval. Et grâce aux visioconférences, grâce, je dirais, à l'électronique, grâce aux mails, grâce à des tas de procédés modernes, on peut organiser des réunions à distance. Ce qu'il faut avant tout, quand on est en position de, j'aime pas le mot de recruteur, mais en position de choisir des associés, voire des amis, il faut qu'on sente que la personne, je dirais, auquel on a pensé, soit en phase totale avec l'esprit du comité. Et l'esprit du comité n'est pas un Michel Julien, une Myrène Delorgerie.
Michel Julien, c'est vous.
C'est moi, oui. Oui, je fais comme Alain Delon, je parle à la troisième personne. Non, mais qu'on ne considère pas que tout le boulot doit rester ou retomber sur ces mêmes personnes. Il y a, je dirais, un esprit d'auberge espagnole et il y a un esprit de partage. Si on ne devait pas ressentir cela chez un impétrant, il est certain qu'on n'irait pas le chercher.
Alors, comment peut-on entrer dans votre comité ?
D'abord, il faut que l'entreprise soit dans le secteur de l'art de vivre.
Ouais.
Si demain Airbus voulait rentrer, on serait certainement très honoré, mais Airbus n'aurait pas sa place.
Pourtant, c'est l'excellence, mais
c'est l'excellence, mais ouais. Bon, elle ne fait pas partie de l'art de vivre au sens où on l'entend. Il y a bien sûr le produit qui soit situé dans l'excellence.
Ouais,
je ne dis pas dans le luxe, je ne dis pas, mais dans un savoir-faire de qualité, mmh, avec des origines de matière, on va dire, si on veut, locales, ouais, puisqu'il faut que l'entreprise, je dirais, s'inscrive dans un cadre régional qu'est l'Occitanie. Je sais, par exemple, je ne vais pas citer ni le secteur, ni l'entreprise, mais on avait hésité entre deux entreprises pour entrer au comité Riquet, et il y en a une qui allait chercher ses produits en Chine,
oui,
pour les transformer.
Vous avez dit non.
Je ne le dirai pas, mais je ne le dirai pas.
On le devine.
Donc là, on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas donné suite, on s'est plutôt orienté vers l'autre société. Bon, et ensuite, bon, il y a donc le secteur, il y a la qualité du produit, et je rejoins un peu la question précédente, c'est la qualité de la femme ou de l'homme qui est à la tête de l'entreprise.
Les valeurs.
Des valeurs. Si vous voulez me poser des questions sur les valeurs, je suis à votre... on continue. Des valeurs qui sont des valeurs morales, des valeurs de partage, des valeurs de mise en commun. C'est pas donné à tout le monde de dire « je vais te présenter un client ou un fournisseur ». Et puis, des valeurs de disponibilité. Je sais que j'ai ambitionné de faire entrer une entreprise du Gard qui avait un produit qui rentrait vraiment pile dans le comité Riquet, mais j'ai eu affaire à quelqu'un de totalement surmené, qui était en train d'installer une nouvelle usine, de nouveaux ateliers, qui m'a dit « j'aurai pas le temps ».
Oui, voilà. Ouais, voilà. Ouais. Denis, nous sommes un petit peu pris par le temps. Quelque chose à ajouter ?
Oui, simplement, j'ai lu dans une, je crois que c'est une interview, j'ai lu ça, c'est sûr, dans la presse numérique, une citation de vous qui est « Vous aviez l'ambition de permettre au grand public de pousser les portes ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase-là, oui. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez par là ? Bon, grand public, c'est qui et pousser quelle porte ?
Je pense effectivement que dans les actions qu'on veut mener, n'est-ce pas, à partir du moment où vous poussez la porte de l'atelier, la porte de l'usine, vous avez une vision tout à fait différente du produit. Je sais que je vais faire appel à mes souvenirs de vigneron. Il est certain que quand je faisais rentrer les gens dans la cave, et pour ceux qui avaient la chance, pendant les périodes de vinification, où je les amenais dans la vigne, je faisais goûter le raisin, je les amenais à la cave, on faisait voir comment on remontait les raisins, comment on remontait les produits, comment on filtrait, comment on sentait les odeurs, comment
on... Ah, on y est presque là.
Là, on il y avait une perception du moment qui était absolument extraordinaire et qui était une valeur ensuite de témoin et ensuite de portage de parole. N'est-ce pas ?
Le tourisme d'expérience.
Le tourisme d'expérience, Michel. Le tourisme de tradition, avec un éclairage d'innovation.
Merci pour ce que vous faites, pour l'Occitanie.
Écoutez, si vous me permettez 30 secondes. Deux secondes. Je sais à qui je m'adresse. Moi, il y a une parabole qui m'intéresse énormément, qui a été un peu ma ligne de mon fil rouge pendant ma vie professionnelle, c'est la parabole du talent. Qu'as-tu fait de ton talent ? Donc, le Languedoc est une somme de talents endormis qu'il faut réveiller.
On vous laisse méditer, on reste là-dessus. Merci à vous. Le comité Riquet, pardon, on peut vous joindre facilement ?
Il y a un site.
Un site internet, tout simplement. Merci à vous, merci Denis d'être avec nous pour Le Goût d'entreprendre. Et merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous contacter sur Radio Présence.
Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.